La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Venus de l'extrême droite comme de l'extrême gauche, les dénonciations souvent complotistes de l'oligarchie qui aurait pris la main sur l'appareil d'État se multiplient, donnant même parfois lieu à des versions antisémites qui empruntent à des motifs hélas bien connus du début du XXe siècle. Que peut la sociologie face à cela ? Reprendre patiemment, mais aussi parfois dans une urgence rendue nécessaire, les enquêtes pour tenter d'opposer des connaissances sérieuses, des transformations réelles, mais bien loin de ces caricatures que connaît l'État. C'est ce qu'a fait Pierre Birnbaum en s'attaquant 40 ans plus tard de nouveau au sommet de l'État. Bonjour Pierre Birnbaum.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 1 et il y a 40 ans, vous avez publié un livre, Les sommets de l'État, c'était en 1977. Après ce livre, vous avez d'ailleurs continué à travailler sur les élites administratives, sur les changements survenus après l'arrivée notamment de la gauche au pouvoir au début des années 80. Puis vous avez travaillé sur bien d'autres choses également. Vous avez eu l'occasion de venir en parler ici à de nombreuses reprises. Mais là, vous reprenez cet objet qui n'est pas forcément l'un des objets les plus fréquentés de la science politique ces 20 dernières années, alors même que la matière elle-même connaît des transformations sans doute assez importantes, mais qui n'est pas toujours aisé de caractériser, et certainement lorsqu'on ne veut pas les caractériser de la même façon que certains acteurs politiques qui tombent assez rapidement dans la caricature. Alors c'est ce à quoi vous vous employez avec un bref livre, comme l'était Les sommets de l'État, d'ailleurs, Où va l'État, essai sur les nouvelles élites du pouvoir, qui paraît aux éditions du Seuil. En deuxième partie de l'émission, pour en parler, j'ai convié Adeline Baldacchino, qui est haut fonctionnaire, qui est magistrate, mais qui est aussi romancière et poète, écrivain, et c'est l'idée de cette deuxième partie, de faire dialoguer des modes de connaissance différents, qu'ils soient pratiques, esthétiques, ou qu'ils relèvent, comme c'est votre cas, Pierre Birnbaum, des sciences sociales. Alors, je voudrais qu'on parte de cette situation, d'ailleurs le livre s'ouvre avec lui, de cette situation nouvelle qui a vu la victoire d'Emmanuel Macron, dont la trajectoire politique est assez inédite, et à la fois exemplaire d'une trajectoire qu'on observe dans une partie de la fonction publique, la haute fonction publique, qui consiste à aller du public au privé et à revenir au public, et en même temps qui est très singulière parce que elle frappe par sa rapidité. En quoi, selon vous, et commençons par là, Emmanuel Macron tranche d'avec ses prédécesseurs, d'avec les précédents présidents de la Ve République ?
Il est l'un des seuls, je pense, à être passé ainsi, avant même d'accéder à la fonction magistrale, suprême, à en faire l'aller-retour comme ça. Je pense que nombre de précédents ne l'ont pas fait. Enfin, ni Chirac, ni Hollande. Il est l'un des premiers, au fond, à entamer un nouveau processus de circulation des élites qui se réalisait parfois pour d'autres fonctionnaires. Mais qui ne s'exprimait pas à ce niveau le plus élevé de l'État. Alors, que faut-il en retenir ? Est-ce qu'il faut retenir simplement que un des rôles l'emporte sur tous les autres ? C'est un peu ça le cœur de ce livre. Je pense qu'il faut vraiment faire attention, prêter attention à une sorte de sociologie weberienne, c'est-à-dire qui met l'accent sur les actions des acteurs et sur les fonctions successives qu'ils peuvent exercer. Et il ne faut pas rabattre un rôle sur les précédents, et ce n'est pas parce que M. Macron, qui a passé quand même plus de temps dans la haute fonction publique que les 4 années chez Rothschild, ça n'est pas pour autant qu'il est l'expression du capitalisme, comme on le dit dans différents courants de la pensée politique contemporaine. Je pense que dans ce cas-là, on dirait que M. Pompidou, qui avait été agrégé avant, aurait exercé sa fonction de président comme agrégé du secondaire, ou, et c'est un exemple plus intéressant, que M. Henri Emmanuelli, qui a été beaucoup plus longtemps que M. Macron, banquier chez Rothschild, dont la profession était d'être banquier chez Rothschild, a dirigé comme banquier le Parti Socialiste. Donc, c'est au fond la succession des rôles qu'il importe de retenir. Et cette succession des rôles, néanmoins, tranche avec les processus antérieurs. Parce que, Auparavant, on avait ce que les sociologues ou les politologues ont appelé une fonctionnarisation du politique. Alors, contrairement à ce que l'ont dit un certain nombre de hauts fonctionnaires récemment dans une tribune qui a fait du bruit, le gouvernement n'est pratiquement pas ouvert du tout à la haute fonction publique. Vous prenez les gouvernements gaullistes antérieurs ou les gouvernements socialistes de Mitterrand, mais également le gouvernement de M. Valls. À peu près tous les grands ministères sont détenus par des hauts fonctionnaires qui sont énarques. Prenez le gouvernement actuel, il n'y a à peu près aucun haut fonctionnaire. Il y a 2 énarques sur 16 personnes qui ont la fonction de ministre, qui ont le rang de ministre. Donc, le gouvernement n'est plus mis en œuvre par des hauts fonctionnaires.
Mais peut-être, pour l'expliquer, faut-il faire l'hypothèse que dorénavant, il est plus important d'être directeur de cabinet que d'être ministre, que jamais, sans doute auparavant, sous la Ve République, on avait vu à ce point les directeurs des cabinets des différents ministères dirigés assez étroitement par le pouvoir central depuis l'Élysée, que par exemple, on a vu aussi l'Élysée exiger de partager des conseillers avec Matignon, que tout pointe vers une forme de concentration du pouvoir exécutif au-delà de la représentation qu'il peut donner à voir à travers les figures des ministres, Pierre Birnbaum.
Tout cela est juste et soulève des problèmes de théorie politique considérables, mais pas dans le sens avancé par les différents mouvements populistes ou un certain nombre d'ouvrages vite fait, mal fait. Il y a en effet un renforcement de l'État, avec les hauts fonctionnaires qui le servent, quel que soit le type de carrière antérieure qu'ils ont pu suivre. Mais ce renforcement de l'État, et vous avez cité en effet un exemple tout à fait frappant et marquant, se fait d'une certaine manière au détriment du gouvernement, mais aussi du Parlement. C'est-à-dire qu'il y a une disjonction entre l'État, qui demeure un État, et c'est important de le souligner, un État fermé au monde du privé, contrairement aux États-Unis, un État qui est totalement hostile, et M. Macron n'est pas l'homme des riches, n'est pas l'homme des banquiers, il est un homme d'État, il est attaché à l'État comme le sont les serviteurs qui sont autour de lui. Par contre, s'il reste au fond dans une logique de l'État fort, et toute son action le montre, le fait qu'il soit dépourvu de parti politique derrière lui pour instaurer son pouvoir explique que tant au Parlement qu'au gouvernement, la représentation nationale est un peu absente. Et c'est ça, à mon avis, beaucoup plus le problème que d'autres critiques qui ont pu être adressées de manière un peu caricaturale de nos jours. Je crois que c'est ça la nouveauté. C'est à la fois un renforcement de l'État dont il faut souligner l'importance et, à nouveau, comme vous avez eu la gentillesse de dire qu'il y a un peu de matériel quantitatif dans ce livre, je souligne le fait, trop longtemps ignoré, que l'immense majorité, 80% des hauts fonctionnaires restent fidèles à leurs fonctions, ne passent jamais dans le privé, ne pantouflent absolument pas, restent des serviteurs de l'État, des fidèles de l'État, des gardiens de l'État, que ce soit au niveau le plus élevé de l'État qu'au niveau le plus élémentaire, depuis les instituteurs jusqu'aux agrégés, jusqu'aux fonctionnaires des ministères. C'est, au fond, on a une sorte de fidélité à l'État dont on sous-estime la force. Et elle est importante, elle est caractéristique de l'exceptionnalisme de l'État à la française, une fermeture à l'égard des valeurs du privé, l'attachement à l'égard des valeurs du service public. Mais par ailleurs, et c'est un peu ça qui est problématique de nos jours, c'est le fait, au fond, la survenue tout à fait extraordinaire et étonnante et inattendue de ce pouvoir politique explique que les partis politiques ne soient pas représentés et que les députés, pour la plupart d'entre eux, sont des primo-députés. C'est-à-dire qu'on a là au Parlement des personnes qui n'ont jamais été députées pour la plupart d'entre elles. Il y a très peu d'entre elles qui ont été ministres. Pratiquement, le nombre de personnes, de députés qui ont exercé des mandats électoraux est extrêmement faible. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'enracinement à la fois de la fonction parlementaire et de la fonction gouvernementale. Et là, on a une véritable différence avec aussi bien, je dirais, la 3e et la 4e République que la 5e également. Parce que la 5e aussi, on avait des hauts fonctionnaires qui avaient une implantation dans le niveau local, qui étaient des maires, qui exerçaient la fonction de maire pendant 20 ans, 30 ans. Ici, il n'y a pratiquement aucun maire au niveau du gouvernement. Il y a Monsieur Collomb, qui est maire de Lyon. Il y a Monsieur Le Drian, qui est maire de Lorient. Mais ces 2 personnes, c'est à peu près tout sur 16 ministres. Auparavant, la plupart des ministres sous la 3e et la 4e, alors c'est évident, on avait des notables enracinés dans le politique, qui avaient longtemps fait une carrière dans les partis politiques, et qui représentaient, au fond, leurs concitoyens à travers les partis politiques. Les députés et les ministres exerçaient leur fonction d'assistante sociale, pour apprendre un terme que vous connaissez bien. Ils ne le font pas, ils ne le font plus, ils brisent la notion que vous connaissez aussi bien et qui est familière à beaucoup de vos amis ou de vos connaissances, de professionnalisation du politique. Ça n'est plus la professionnalisation du politique sur laquelle s'intéressent nombre de mes collègues, puisqu'ils n'ont pas de capital politique, vous voyez, pour reprendre cette expression qui n'est pas la mienne.
Et d'ailleurs, ça a conduit un certain nombre d'observateurs durant la campagne présidentielle à pronostiquer l'éclatement de ce qu'on appelait la bulle Macron parce que ce candidat ne pouvait pas s'appuyer sur une entreprise politique solide et la sociologie politique nous avait enseigné qu'on ne pouvait pas remporter une élection sans bénéficier de ce type de logistique et de soutien. Mais alors ça me conduit, Pierre Birnbaum, à envisager une hypothèse, peut-être pour aller encore davantage dans votre sens, dans le sens de l'explication que vous proposez, on pourrait se demander au fond si, à la faveur de la crise de la professionnalisation politique qui est patente, qui se traduit de diverses manières et qui a principalement touché les deux plus grands partis de gouvernement lors de cette dernière élection, si c'est à la faveur de cette crise de la professionnalisation politique, nous n'avons pas assisté à une sorte d'OPA de certains segments, en tout cas, de la haute fonction publique sur la politique, à une forme, pour le dire dans vos termes de sociologie, de dédifférenciation, ce qui serait quand même un phénomène assez unique, hors temps de crise, où l'on sait que les logiques sectorielles ont tendance à se brouiller, mais hors temps de crise politique, je ne crois pas qu'on traverse à proprement parler une crise au sens aigu du terme, il y a une crise de la confiance, de la professionnalisation dont je parlais, mais c'est autre chose. Donc comment est-ce que cette hypothèse d'une forme de dédifférenciation, de prise en main de l'État par l'administration aux dépens du politique qui avait gagné son autonomie vous paraît une piste possible à emprunter?
Alors, vous utilisez un terme qui m'est familier, le terme de dédifférenciation. L'État à la française est précisément un État différencié. Alors, dans quel sens souhaitez-vous l'entendre? Il n'y a pas de remise en question de cette différenciation de l'État. Il y a une accentuation, je dirais, de la différenciation de l'État. Il y a une rupture, mais ça n'est pas sa faute. Au président, vous voyez, c'est un contexte politique dramatique. Il nous a quand même évité, et on fait silence très vite là-dessus, il nous a évité des drames épouvantables. Je ne vais pas citer les partis politiques qu'il nous a évités, mais enfin, il nous a évité des situations tout à fait ubuesques et dramatiques dans lesquelles nous aurions pu sombrer. Il se trouve dans une situation où, en effet, c'est l'État qui reprend la main. Il la reprend davantage encore, et là, je vais dans votre sens, en s'éloignant des partis politiques. C'est là la difficulté, c'est que auparavant l'État était, c'est la spécificité de la société française, l'État à la française c'est différencier des partis politiques, l'État à la française c'est différencier des classes sociales dominantes, des castes, des couches, des associations, des syndicats, c'est une forme de différenciation qui marque cet exceptionnalisme. Ici, il y a une accentuation si forte qu'elle trouble le lien qui a pu s'instaurer néanmoins à travers l'histoire française, entre les partis politiques qui ont été mis au banc de la société par l'histoire propre de la société française et qui n'ont conquis une légitimité qu'à travers, disons, la constitution de la 4e République, donc c'est très récent. Mais les partis politiques avaient su instaurer un lien, il y avait un lien entre la carrière politique, la carrière de l'État, il y avait une jonction, il y avait une succession des rôles. Ici, il y a une nouvelle différenciation entre un politique qui n'est plus représenté nulle part, finalement, ni au gouvernement, ni au Parlement. Je dis les choses avec prudence, bien sûr que j'exagère, mais les partis politiques traditionnels ont perdu, comme vous l'avez rappelé, leur force, leur implantation et leur mode d'expression. Ils ne transmettent plus, dans cette situation assez exceptionnelle que nous vivons aujourd'hui, la volonté nationale. Et comme les associations restent faibles, comme les syndicats sont plus ou moins laminés, et c'est tragique de le constater, comme la vie associative est relativement faible dans la société française, on se trouve dans une sorte de vide sidéral qu'il importe de remplir. Alors faut-il le remplir avec des visions logomachiques de mobilisation populaire qui remporterait le politique et les idéologies? Non, il faut reconstruire par le bas. Il faut qu'en effet, la vie associative, la vie locale, les partis politiques, il faut que les citoyens se réengagent dans le politique. Il y a urgence que la société civile se mobilise, rejoigne les partis politiques, la vie associative, la vie syndicale, pour qu'à nouveau se rétablissent une sorte de lien instable et difficile entre l'État et une société civile dont il sait depuis tout le temps différencier.
Je voudrais qu'on prenne un autre exemple, non pas celui d'Emmanuel Macron, mais son prédécesseur, François Hollande. Il me paraît intéressant à double titre au moins. D'une part, François Hollande est un énarque, mais un énarque qui est passé par une école de commerce, HEC. En cela, il est représentatif d'une évolution qui n'est pas massive sans doute, mais qui est réelle et que vous observez dans les chiffres, Pierre Birnbaum. Mais à côté de ça, ça c'est le versant moderne, je dirais, ou nouveau du parcours de François Hollande. En revanche, le versant classique du parcours de François Hollande le fait ressembler à cette filière, à cette manière de faire carrière politique qui a aussi été celle de Jacques Chirac, d'Alain Juppé, de Laurent Fabius, de Michel Rocard, de tant et tant d'énarques qui ont passé le concours de cette école, en ont été élèves, en sont sortis brillamment, ont travaillé dans les services de l'État à des hautes responsabilités et ont progressivement acquis une compétence et une légitimité politique à travers l'élection, la plupart du temps, des mandats locaux et puis des mandats nationaux, jusque parfois la fonction de président de la République. Bon, ce qui s'opère avec la crise de cette politique professionnelle, c'est des changements profonds, une situation dans laquelle, ce qui rend peut-être possible l'avènement de Macron, une situation dans laquelle trois personnes qui occupent des postes importants à gauche à ce moment-là, le Premier ministre Manuel Valls, le responsable du Parti Socialiste, M. Cambadélis, et le candidat à l'élection présidentielle, Benoît Hamon, sont des professionnels de la politique qui non seulement n'ont pas fait l'ENA, mais dont on peut dire au fond qu'ils ont sacrifié leurs études à la politique professionnelle dès la première année d'université. Ce sont des militants étudiants professionnels devenus des professionnels de la politique plus qu'aucun autre. Est-ce que là, on n'a pas un indice des transformations qui ont vu des énarques finalement déserter la politique professionnelle, une génération d'énarques, celle apparue dans les années 80, après François Hollande, pour faire de la politique autrement, en ayant compris qu'au fond, être directeur de cabinet, c'est avoir beaucoup plus de pouvoir que d'être ministre, et surtout, ça évite d'aller sur les marchés, serrer les mains et jouer à l'assistante sociale, comme vous disiez tout à l'heure.
Écoutez, c'est dramatique. Et je pense que la carrière de François Hollande est au contraire une sorte de type idéal de ce qu'il faut maintenir, c'est-à-dire à la fois une compétence acquise dans les grandes écoles de l'État, la conviction du service public, la conviction socialiste, enfin de une éthique, une forme d'éthique et d'universalisme, et en même temps le bricolage du politique au niveau local, l'apprentissage de ce qu'est la société, l'implication au plus bas du politique, le maintien de contacts extrêmement étroits avec les concitoyens. Or, les trois personnes que vous citez n'ont pas bénéficié ni de l'un ni de l'autre, je dirais, ni des grandes écoles et de la compétence méritocratique dont ils ne sont pas, qui n'ont pas acquise, ni de cette lente, longue implantation dans la société locale qui permet au fond de concilier deux types de compétences. Voyons demain quelles seront les personnes qui seront à la tête des partis qui vont reprendre du poil de la bête, il faut l'espérer, qui vont se réimplanter, qui vont se remobiliser, qui vont repartir à la conquête de l'État et se réimplanter à la direction de l'État. Mais pour revenir à la première phrase, ou à votre première remarque, la question d'HEC, et vous avez tout à fait raison, M. Hollande a fait HEC en même temps que l'ENA, mais dans certaines promotions de l'ENA, je crois c'est autour de 2000, depuis 2005, on arrive à près de 30% des élèves de l'ENA qui sont passés par une école de commerce, comme HEC ou l'ESSEC. Et si l'on regarde au niveau des cabinets, pas au niveau du gouvernement, mais au niveau des cabinets, vous trouvez un nombre de personnes relativement importantes qui sont passées par des écoles de commerce américaines, le MIT, le Harvard Business School, etc. Donc on a une connaissance dont étaient dépourvus Jacques Chirac ou les hauts fonctionnaires gaullistes d'antan. Alors, quel en est le sens ? Est-ce que forcément cette acquisition des connaissances du management qui a été prise dans les écoles du privé, est-ce qu'elle est appliquée mécaniquement au bénéfice des intérêts du privé une fois que ces personnes sont passées dans le public ? On peut dire le contraire. Et pour ma part, dans ce petit livre que vous avez cité, j'ai utilisé un grand nombre de travaux faits par mes collègues sociologues ou économistes qui montrent le contraire, c'est-à-dire qu'en réalité, comme Baez, par exemple, montre à quel point l'État importe les techniques du management, mais a le souci de lui-même. C'est une très belle expression, il a le souci de soi. C'est-à-dire qu'il importe les techniques. Ces personnes ont fait HEC, ont fait l'ESSEC, l'École supérieure de commerce de province, ou des États-Unis, mais en fait, elles importent à l'intérieur de l'État des techniques pour améliorer le fonctionnement de l'État, et pour l'instant, en tout cas, elles n'ont pas encore véritablement remis en question la logique de l'État, le service public. Il y a des réformes qui se profilent, dont certaines peuvent être dangereuses, en tout cas qui peuvent remettre en question un certain nombre de fonctionnements auxquels nous sommes profondément attachés. Mais pour l'instant encore, l'obligation de réserve, le service public, les 35 heures, l'État tient encore à son fonctionnement. Et peut-être que ces techniques telles qu'elles sont importées, du privé, cette multiplicité de compétences qui a été acquise par ces nouveaux fonctionnaires, peut-être qu'elles vont contribuer à sauver l'État dans son mode de fonctionnement, sans, espérons-le, remettre en question sa logique au service de l'intérêt général.
Mais est-ce qu'on ne gagnerait pas à distinguer à l'intérieur de la haute fonction publique un tout petit nombre de très hauts fonctionnaires qui sont ceux qui sortent dans la botte, comme on dit, aux premières places du concours et qui intègrent du même coup les grands corps de l'État et qui connaissent des carrières aux trajectoires différentes de la grande masse des énarques, aux fonctionnaires également, qui restent eux principalement dans le secteur public à la différence des premiers. C'est un point sur lequel insistait récemment dans un article Luc Rouban, Pierre Birnbaum.
Alors, c'est un point essentiel. Il n'empêche qu'il faut regarder les choses de plus près. En dehors du travail de Rouban, qui est excellent, il y a aussi le livre de Vauchez dont vous avez parlé récemment. Bien évidemment, ceux qui sortent dans la botte ont plus facilement des doubles, triples, quadruples carrières en passant par le privé, sont attirés davantage par le privé. Mais si vous regardez de plus près, par exemple, les membres du Conseil d'État, je cite dans ce livre une statistique très récente, sur les 300 ou 320 membres du Conseil d'État, il y en a, je crois, 150 ou 160 qui n'ont jamais quitté la fonction de l'État. Il y en a 120 qui sont passés par des cabinets ou d'autres entreprises publiques. Et il y en a, je crois, que 30 ou 32 qui ont pantouflé dans le privé. C'est-à-dire que on est à moins de 10% des conseillers d'État, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment dans la botte. Ça concerne davantage les inspecteurs des finances, où là, en effet, on voit bien que les inspecteurs des finances sont davantage attirés par le privé, qui remet en question, au fond, la différenciation entre l'État et le marché. Est-ce que pour autant, ce passage entre privé et public abolisse totalement la différenciation entre l'État et le privé? Ce sont des travaux qui sont nécessaires, il faut suivre la question. Ces signes, ces indices sont préoccupants, vous avez raison. Je pense que ce qui est encore davantage préoccupant, et c'est là-dessus que j'insiste dans ce petit livre, c'est la corruption.
Oui, vous consacrez un chapitre à cette question. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu l'enquête d'Antoine Vaucher et Pierre-France que vous citiez, c'est-à-dire parce que ça concerne en partie les mondes du droit et la porosité désormais entre l'État et certains grands acteurs juridiques privés, certains très grands cabinets d'avocats.
Oui, vous avez tout à fait raison, mais à la différence de cet ouvrage remarquable que vous citez, lorsque je rédige ce chapitre sur la corruption, j'ai en tête essentiellement la corruption de hauts fonctionnaires qui restent, qui sont dans l'État, qui ne sont pas passés dans le privé avec des problèmes de lien entre les deux
secteurs. De conflits d'intérêts.
Voilà, de conflits d'intérêts. Mais ce sont des hauts fonctionnaires qui sont des acteurs essentiels de l'État. Et d'un seul coup, on se rend compte que, je crois, pour la première fois dans l'histoire, en tout cas depuis très longtemps, un certain nombre d'entre eux, très limités, heureusement, et insistons là-dessus, mais néanmoins assez emblématiques de l'État, comme M. Claude Guéant, on peut le citer, puisqu'il a été condamné par... Il y a des procès, il y a des appels, des processus en cours, donc soyons prudents dans la terminologie, mais il y a un certain nombre d'entre eux, au fond, sont éloignés des règles du service public et ont bénéficié de manière privative, au fond, d'intérêts particuliers. Cette dame préfète de la Creuse, qui a été condamnée dans des termes assez brutaux, il faut relire ce texte de ce jugement, qui est vraiment terrible. Ce haut fonctionnaire de la Cour de cassation, qui convoitait un poste à Monaco. C'est-à-dire que là, ce sont des comportements internes à l'État. Et je pense que ce sont ceux-là qui sont les plus dramatiques.
Même s'ils sont encore très marginaux et limités, ils vous semblent plus fréquents qu'à d'autres périodes?
Je n'ai pas, pour être franc, de matériel quantitatif pour vous répondre de manière tout à fait sérieuse, mais j'ai regardé un tout petit peu tout de même la fréquence de ce type de comportement depuis la 4e République. Oui, J'ai un peu l'impression, mais je le dis avec beaucoup de prudence, qu'il y a une accélération, une accentuation, je ne sais pas dans quel rythme et tout, mais enfin, qu'on trouve davantage d'exemples. Regardez autour de M. Claude Guéant, il y a d'autres énarques, d'autres préfets qui ont été condamnés par la justice, alors qu'ils sont en poste dans l'État. Et c'est au fond cela qui me paraît presque plus dramatique que les questions de conflit d'intérêts qu'il faut surveiller de très près, auxquelles l'État, les commissions de déontologie doivent veiller beaucoup plus qu'elles ne le font. C'est urgent, c'est important, c'est nécessaire. Mais qui est cette corruption de personnels les plus élevés qui représentent l'État aux yeux de nos concitoyens, qui incarnent la fonction de l'État? Richelieu, puisque ce Guéant a été comparé à Richelieu, c'est-à-dire l'État dans sa puissance, dans l'idée qu'il est responsable au fond du bien public et de l'intérêt national, que des personnes puissent remettre en question cette logique de l'État, ça ne fait qu'accentuer alors la délégitimation du politique, la délégitimation de l'État, les pensées populistes, les visions extrêmement grotesques de l'oligarchie qui nous gouvernerait, de la caste oligarchique qui se goinfre à nos dépens, le retour d'un thème sur lequel j'avais écrit un petit livre, le peuple et les gros, c'est-à-dire c'est les gros qui nous dirigent, c'est le capitalisme, c'est les juifs derrière, c'est-à-dire des visions totalement en dehors de la plaque et qui sous-estiment l'effort de résistance de l'État. Je pense que c'est le thème essentiel de ce petit livre. On sous-estime la résistance de l'État à ses différents paris, à ses différents défis. Il n'en est pas moins vrai qu'il existe de véritables difficultés, il existe des zones noires, des zones d'ombre qui semblent s'étendre et qui sont inquiétantes.
Alors il y a les zones noires, les zones d'ombre, mais il y a aussi, parmi les nouveautés, les transformations, ce qu'on pourrait appeler les zones grises. Je veux dire par là, je m'éloigne de la question de la corruption, la difficulté qu'il peut y avoir désormais à tracer les frontières de l'État, puisque autrefois l'État était organisé de manière très hiérarchique, très simple, avec des organigrammes pyramidaux relativement aisés à dessiner, et qu'aujourd'hui, on a vu, depuis des années déjà, se multiplier des agences qui viennent parfois empiéter sur les prérogatives des administrations centrales, qui, elles, continuent d'être organisées comme autrefois. Des agences qui peuvent, entre elles d'ailleurs, en partie aussi se concurrencer ou empiéter sur les plates-bandes de l'autre. Comment aujourd'hui se représenter l'État? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une difficulté pour le chercheur Pierre Birnbaum?
Elle est cruciale et vous avez parfaitement raison. Et tous ceux qui ont travaillé, qui ont fait du droit administratif, sont bien conscients de l'évolution essentielle de cette discipline. Il y a un grand nombre de fonctions de services publics qui sont mises en œuvre par des entreprises privées, qui exercent leurs actions, qui sont supposées exercer leurs fonctions au service de l'État. Et là, il y a un trouble qui se répand de plus en plus. Vous avez raison aussi de souligner, de dire que ça n'a rien à voir avec M. Macron. C'est quelque chose qui s'accentue depuis 20 ou 30 ans. L'État s'affaiblit dans sa structure. Et l'État s'affaiblit aussi, en dehors même du phénomène que vous venez de citer, l'État s'affaiblit aussi dans sa propre organisation, puisqu'il y a de moins en moins de services publics, de plus en plus d'écoles privées qui remplacent des écoles publiques, il y a des polices privées. La question de la police est tout à fait essentielle et on n'en parle pas beaucoup. Le fait qu'il y ait maintenant des polices municipales un peu partout, qui ont des prérogatives de plus en plus importantes, c'est quelque chose de fondamental pour comprendre, malheureusement, l'affaiblissement de l'État, le fait qu'il y ait des polices municipales dont certaines sont armées et qui ont des prérogatives, qui peuvent mettre des contraventions, qui ont des prérogatives de la police nationale. Il y a là autant d'exemples, au fond, d'une remise en question de la force de l'État antérieur qui est tout à fait préoccupante.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
De ce qui est, ce qu'il faudra, de ce qu'il faut, ce qu'on devra, de ce qu'on doit, ce qu'on fera, et ce qui sera fait, ce qui s'ajoute, et ce qui se soustrait, vide qui enfle, forêt qui disparaît, ce qui sera, de ce qui est. Stop. visage caché dans les mains, et les mains s'ouvrent, et le visage délivre alors un seul message. Le jeu est-il de tout changer,
le jeu est-il de tout changer,
et de sauver ce qu'on pourra,
oh, de sauver ce qu'on pourra,
du début jusqu'à mi-chemin.
Cycle, extrait du nouvel album de Dominica qui paraîtra le 9 mars. Les sommets de l'État revisités, ou plutôt Où va l'État ? C'est le titre de ce livre de Pierre Birnbaum dont nous parlons aujourd'hui en sa compagnie. Et en compagnie également d'Adeline Baldacchino, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes magistrate, vous êtes haut fonctionnaire, vous êtes passé par cette école dont on a beaucoup parlé dans la première partie de l'émission, l'École nationale d'administration. Vous êtes également écrivain, poète, vous venez de publier aux éditions Fayard celui qui disait non à propos d'une figure de désobéissance civile dans l'Allemagne nazie. J'imagine une thématique importante, intéressante pour une haute fonctionnaire également. Mais on vous doit un livre, un essai, paru il y a quelques mois, La ferme des énarques, chez Michalon, dans lequel vous reveniez au fond sur votre formation et plus généralement sur la formation de ces hauts fonctionnaires à travers cette école dont on a beaucoup dit qu'elle a longtemps été inadapté aux transformations du New Public Management, de la manière de gérer l'État, puisqu'on sélectionnait et on formait ces hauts fonctionnaires français à coups de droits administratifs, d'apprentissage par cœur des fameux arrêts des granites porphyroïdes des Vosges et autres. Tous ceux qui ont fait du droit administratif comprendront la référence, Adeline Baldacchino.
Oui, et c'est pourquoi j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'essai de Pierre Birnbaum, qui rappelle bien que l'ENA a été créée en 45 avec une sorte de consensus social entre les gaullistes et les communistes, avec l'idée que c'était l'école qui devait inculquer le sentiment des hauts devoirs que la fonction publique impose. Et en réalité, en lisant Pierre Birnbaum, je me suis dit que je le trouvais peut-être un peu optimiste. C'est-à-dire, je suis absolument d'accord avec lui quant à l'idée que l'ENA devrait être cette pépinière du service public qui permet une forme de socialisation à ce qu'il appelle le culte de l'intérêt général et ce qu'elle a longtemps été tentée d'être. Mais ce que je crois, il nous faut aller regarder sans renvoyer immédiatement la critique à une accusation de populisme, c'est le mode de formation et le contenu de la formation à l'ENA. C'est-à-dire, je crois, comme Pierre Birnbaum, que la question n'est peut-être pas tant celle aujourd'hui de la cooptation et du fameux débat sur le concours d'entrée, de sortie, etc., sur lesquels il y a beaucoup de choses à dire, mais on reste dans un modèle qui est celui de la méritocratie, toujours à améliorer, bien entendu. L'école fait des efforts dans ce sens-là. Mais de ce côté-là, il y a une prise de conscience. Là où, en revanche, le débat n'a pas porté, je crois, au cours de ces dernières années, et c'était l'objet à ce moment-là de mon livre, c'était sur le contenu même de la formation. Parce que si l'on dit que les énarques sont les gardiens, quelque part, de l'État, c'est la formule qu'il utilise, il faut aussi se demander au service de quoi et pourquoi faire, au service de quelle idéologie, s'il y en avait une, ils sont là. Et dans ce cadre-là, c'est important de voir s'il n'y a pas eu une transformation, non pas de la place des énarques, qui reste effectivement forte et qui va dans le sens d'un maintien de la place de l'État en France incontestable, mais en revanche, est-ce qu'il n'y a pas eu transformation au cœur même de l'État du rapport au service public ? Je veux dire par là qu'il me paraît très difficile de dire qu'on est dans un État totalement hostile aux affaires. On le voit bien parce que les exemples sont d'ailleurs dans le livre, l'interpénétration des intérêts, notamment entre Bercy, par exemple, et le secteur de la banque ou des assurances, du fait même de ces allers-retours, est extrêmement prégnante et forte. Et évidemment, le parcours de nombre d'inspecteurs des finances va dans le même sens. Donc peut-être que la question qu'il faut se poser, c'est pas tant l'État garde-t-il une place centrale, évidemment, dans le système institutionnel français, mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas eu une montée en puissance d'une idéologie qu'on pourrait qualifier peut-être de néolibérale, avec en effet des choses qui sont d'ailleurs mentionnées dans le livre, au départ la révision générale des politiques publiques, puis la loi organique relative aux droits de finances, puis toute une terminologie au fond du New Public Management qui importe dans l'État des logiques qui sont celles du privé, quitte à parfois oublier que justement l'État présente des différences fondatrices et fondamentales avec l'entreprise.
Au fond, la question que pose Adeline Baldacchino, d'une certaine façon, Pierre Birnbaum, c'est celle de savoir si l'importation au cœur de l'État, par éventuellement des agents de l'État qui ont fait un passage par le privé, de ces techniques de management, de ces outils dont vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'il s'agit juste d'outils ou est-ce que le référentiel, en termes peut-être même de valeur, a été affecté?
Moi, je n'ai pas de réponse à apporter personnellement. Je n'ai fait que lire la littérature de mes collègues sociologues qui ont quand même bien travaillé récemment là-dessus. Et les livres, les articles très nombreux de Philippe Bèze sont brillantissimes d'analyse empirique. Et il montre sans cesse sa conclusion, c'est que ils importent ces techniques, mais pour renforcer l'efficacité de l'État. Ça n'est pas moi qui le dis. Je n'ai pas fait de travaux là-dessus, bien évidemment. Je ne fais que citer un très grand nombre. Il y a 25 pages de notes à la fin de mon petit livre. Je cite un très grand nombre de travaux récents faits par mes collègues des politiques publiques. Il y a de très bonnes revues maintenant de politique publique en France.
On peut citer aussi Philippe Bézaz, il y a aussi oui. Patrick Lelidec. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur la
loi. Ils sont très compétents, ce sont de très bons travaux. Et ils vont tous dans ce sens. Ce n'est pas moi, je ne suis pas compétent. Mais en tout cas, je ne fais que les citer. Et ils vont plutôt dans le sens qui est un peu différent du vôtre.
Je crois que tout dépend effectivement de ce que l'on appelle le renforcement de l'efficacité de l'État. Si l'on considère que rendre l'État plus efficace, c'est définir toute une batterie d'indicateurs, de performances, et pouvoir tenir un discours, au fond, très organisé, très cohérent sur ces éléments-là, suffit à faire de l'État un État efficace, alors on peut dire en effet que l'importation de ces techniques a constitué un progrès. Sauf que je crois justement que c'est avoir une approche qui est celle de la business school, qui est justement l'importation des idées, on le disait, d'HEC au sein de l'ENA, et qu'en réalité, c'est oublier que ça n'est pas seulement la vitrine et donc la communication politique qui compte, mais peut-être les résultats. Et que, dans ce contexte-là, la colère qu'on a vue s'exercer et qui prend parfois des formes populistes montre bien qu'il y a trop de domaines dans lesquels il y a eu échec des politiques publiques, et qu'il ne suffit pas, dans ce cadre-là, de venir avec de beaux nouveaux outils, des réformes présentées sur le papier comme formidable pour améliorer sur le terrain la qualité de services publics qui, eux, sont en retrait, ce que vous admettez vous-même dans votre livre.
Alors du coup, on se demande, Pierre Birnbaum, si au fond, l'une des raisons qui permettrait d'expliquer pourquoi ce sont les outils forgés dans les business schools qui ont été mis en œuvre et non pas d'autres types d'outils, ne tiendrait pas au fait que très longtemps, voire trop longtemps, la formation de ces hauts fonctionnaires français a reposé sur la maîtrise du droit administratif et absolument pas sur ce que la sociologie politique et notamment l'évaluation des politiques publiques auraient permis d'apporter. Si, au lieu de se tourner vers HEC, l'ESSEC ou l'ESCP, les gens de l'ENA avaient regardé ce qui se produisait du côté des chercheurs que vous citiez tout à l'heure, du côté des analystes, dans la suite de Jean-Claude Tonique, de beaucoup de chercheurs que vous connaissez bien, Pierre Birnbaum, est-ce qu'il n'y a pas eu un raté et une spécificité française, du coup, aujourd'hui, de ce fait?
J'ai beaucoup de mal à vous répondre. Il y a des ratés, c'est évident. Peut-on faire mieux? Je ne sais pas. François Hollande avait fait HEC. Et dans quelle mesure la politique socialiste mise en œuvre par François Hollande est liée au fait qu'il a fait HEC avant? Comment savoir, comment rendre compte des échecs? Ils sont nombreux dans tous les gouvernements du monde. Il y a des enjeux tellement compliqués à mettre en œuvre. J'ai bien conscience de la banalité de ma réponse, mais j'ai bien du mal à vous répondre.
Adeline Bellacchino, vous avez, j'imagine, un avis, parce que votre livre porte sur la formation,
vu
notamment.
Vu de l'intérieur de l'école, je crois qu'en effet, ce qu'il nous a manqué depuis des années, ce qu'il nous manque encore aujourd'hui, c'est un dialogue beaucoup plus étroit, au moment même de la formation, avec tout ce qui se produit du côté universitaire et intellectuel en France,
sociales.
Qui est extrêmement riche, et en sciences sociales, sciences humaines, bien évidemment.
Et ça, il y a cette conscience où vous êtes, de la part des élèves ou des anciens élèves, où vous êtes un cas relativement isolé. Il faut quand même noter, et ça c'est un des grands mérites du livre de Pierre Birnbaum, que la plupart de ceux qui, comme vous, sont passés par l'ENA, restent principalement au service de l'État pendant toute leur carrière.
Mais je crois que la prise de conscience est assez nette au niveau individuel. C'est-à-dire que chacun est un peu déçu, au fond, par sa formation du côté intellectuel à l'ENA. Bien sûr, il y a les stages, il y a l'apprentissage de l'État qui reste très fort. Mais en revanche, intellectuel, ça n'est pas là qu'on avance, je crois. Et chacun en est conscient à titre individuel. Simplement, une fois sorti, chacun est pris aussi, voilà, le nez dans le guidon par ses nouvelles fonctions, par l'urgence d'agir, chacun à son niveau comme il le peut. Et on ne se pose plus au niveau institutionnel, qui est en fait celui du gouvernement et puis celui de la gestion et de la direction de l'école, la question de réagir enfin sur ce problème qui, moi, me paraît fondateur et fondamental, qui est tout simplement la maquette pédagogique de l'école. D'y faire venir des sociologues, d'y faire venir des philosophes, mais des philosophes qui ne viennent pas tant parler de théorie politique qu'on a pu éventuellement effectivement aborder avant, mais venir parler de l'articulation très étroite et nécessaire entre les questions d'éthique et les politiques publiques au sens le plus concret du terme.
Oui, arrêtez de considérer que la politique d'un côté et l'éthique de l'autre sont si facilement séparables et que l'articulation est au cœur des prises de décision, j'imagine, quand on est haut fonctionnaire. Je voudrais, Pierre Biernemont, on arrive au terme de l'émission, revenir sur une expression que vous utilisez dans ce livre et que vous utilisez plus largement parce que ça dépasse l'expression, c'est véritablement un concept, celui d'état fort, que vous appliquez à la France. Au terme de cette enquête refaite en quelque sorte de cette prise en considération des transformations, vous diriez que vous faites le constat d'un affaiblissement de l'État français, mais malgré tout, votre modèle qui présente la France comme archétypale de ce qu'est l'État fort face à, je ne sais pas, la Grande-Bretagne comme archétype de l'État faible, vous paraît encore tenir ?
On est à un moment complexe, dramatique de la société française. Et une vraie question se pose, est-ce qu'une logique historique peut venir à son terme ? Est-ce que la longue histoire de cet État qui s'est construit par la différenciation, en se renforçant, en essayant de se construire de manière méritocratique, à l'écart de la classe dirigeante, des partis politiques, des histoires de race, d'ethnie, de religion, est-ce qu'elle vient à son terme ? Alors en effet, il y a un grand nombre de signes, et vous venez d'en citer plusieurs, qui sont préoccupants. Il y a tout un ensemble de constats sur son affaiblissement. Mais je vous fais une confidence, au fond, j'ai fait du paupère personnel, je me suis paupérisé moi-même. C'est-à-dire que je me suis auto-réfuté par ce livre. Lorsque j'ai proposé ce projet aux éditions du Seuil, j'avais l'idée de proposer un livre sur la fin de l'État. Et chemin faisant, je me suis paupérisé, c'est-à-dire que je me suis falsifié, je me suis auto-réfuté. Et il me semble quand même que ce qui surnage, c'est le maintien de cet État, confronté à des paris de plus en plus dramatiques, mais que pour l'instant, les choses tiennent encore un peu.
Merci Pierre Biernemont. Je rappelle le titre de ce livre, Où va l'État ? Essai sur les nouvelles élites du pouvoir. Il paraît aux éditions du Seuil. Adeline Baldacchino, je rappelle que vous êtes l'auteur de La Ferme des Énarques chez Michelon et puis que vous venez de faire paraître aux éditions Fayard un roman, celui qui disait non. On trouve toutes les références bibliographiques sur la page de La Suite dans les idées, une page où vous pourrez également réécouter l'émission en streaming ou la télécharger, vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production, Catherine Donnet, à la technique Alain Joubert, à la réalisation Anne-Laure Chanel. Et c'est Christine Bernard que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.